Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Elles en parlent encore 105.4 sur Radio Panique. Retrouvez-nous tous les derniers samedis du mois pour des sujets féministes et engagés avec une bonne dose de musique Girl Power. Alors aujourd'hui, on va discuter d'avortement. Vous allez entendre Léa.
Bonjour.
Lisa à distance et moi, mais pas que nous trois, on a récolté des précieux témoignages de personnes qui ont vécu un avortement et on va les partager avec vous aujourd'hui. On n'a pas le temps de partager tous les témoignages, vous pouvez les retrouver sur notre podcast sur SoundCloud après. Alors déjà un grand merci à vous tous d'avoir partagé vos expériences avec nous, vous êtes courageuses et fortes. Je crois qu'on doit vraiment libérer la parole et dédiaboliser le recours à l'avortement et en discuter entre femmes, entre toute personne qui a un utérus, qu'on ait avorté ou qu'on ne l'a jamais fait. Nous avons parlé il y a un mois de la contraception, de nos propres expériences, des applications et de la contraception digitale. On a parlé des contraceptifs masculins et évidemment des effets néfastes de la contraception. Et on nous inculque que l'avortement, c'est ce qui arrive quand on ne sait pas protéger ou pas assez bien protéger. Que c'est la suite logique à notre défaillance parce que oui, contrôler à ce qu'on ne tombe pas enceinte, c'est entièrement la responsabilité des femmes et de toutes les personnes qui peuvent tomber enceinte. L'information sur l'avortement, ses délais, ses conditions, sa légalité, les options, la procédure, ces informations ne sont pas disponibles. On ne nous éduque pas là-dessus à l'école ni à l'université. Il faut aller la chercher l'info activement et le plus souvent, c'est seulement quand on est déjà enceinte, qu'on enquête, qu'on mène notre chemin sur les forums et les pages d'Internet. Alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement maintenant quelques notions basiques sur le recours à l'avortement en Belgique. D'abord, qu'est-ce que c'est l'avortement ? L'avortement, par définition, c'est l'interruption du processus de gestation, c'est-à-dire du développement qui commence à la conception par la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde formant ainsi un œuf, qui se poursuit par la croissance de l'embryon puis du fœtus. Aussi appelé IVG, interruption volontaire de grossesse, l'IVG est à différencier de l'avortement ou l'interruption de grossesse médicale ou thérapeutique. L'interruption de grossesse médicale ou thérapeutique est pratiquée lorsque la vie de la personne enceinte est en danger ou parce que le fœtus est atteint de malformations ou d'une maladie grave et incurable. Donc aujourd'hui, on parle de l'interruption volontaire de grossesse qui est pratiquée sans nécessité médicale, mais parce que la personne enceinte fait le choix de ne pas avoir cet enfant. Il y a alors deux types d'avortements dans ce type d'IVG qui existent, l'avortement médicamenteux et l'avortement chirurgical. L'IVG peut avoir lieu avant la fin de la 12e semaine de conception, ça correspond à 14 semaines après le début des dernières règles. Et l'avortement médicamenteux se pratique jusqu'à 5 semaines de grossesse. Il consiste à prendre en présence du médecin des comprimés qui provoquent l'avortement. La méthode chirurgicale se pratique pendant plus longtemps, jusqu'à la 12e semaine de grossesse, et consiste dans l'aspiration de l'embryon via une sonde introduite dans l'utérus. Elle requiert une anesthésie du col de l'utérus ou générale et elle dure environ 2 heures. Dans les deux cas, une visite a lieu dans les 2-3 semaines qui suivent l'intervention pour vérifier si l'utérus est bien vide. La personne enceinte doit aussi attendre une semaine après sa première visite où elle a demandé l'avortement avant de pouvoir effectivement avorter. L'établissement, donc selon les centres de planning familiaux, sont tenus d'informer la personne des aides sociales existantes et des mesures de contraception possibles. Et ils sont aussi obligés de fournir un service d'écoute psychologique. Un entretien psychologique et un examen médical sont aussi obligatoires une fois après la demande. Alors, d'un point de vue juridique, et ça c'est mon dernier point, l'avortement n'est pas totalement légal. L'avortement est partiellement dépénalisé, ce qui veut dire que sous les conditions qu'on vient d'expliquer, l'avortement est légal, en dehors de ces conditions, il est illégal. Alors maintenant, on va vous laisser sur la première partie de témoignages que nous avons récolté, et encore un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé.
Donc, moi j'ai 4 histoires de grossesse, 2 enfants, 2 IVG.
Il y a de ça maintenant 3 ans environ, on décide avec mon compagnon d'avoir un deuxième enfant. J'arrête la pilule, je tombe très rapidement enceinte. On est content. Je vais à mon premier rendez-vous à l'hôpital, assez classique, prise de sang, etc. Et 3 jours plus tard, on me rappelle. Quand on est rappelé, c'est rarement bonne nouvelle. On me demande de faire des examens complémentaires et grosso modo, on découvre que j'ai attrapé un virus en début de grossesse et pour lequel c'est un peu compliqué. On peut pas savoir. Avant la, si je me trompe pas, je pense 22e ou 24e semaine de grossesse, si ce virus a eu un impact sur le fœtus ou pas. Sauf que s'il a eu un impact sur le fœtus, c'est un impact qui fait que ce fœtus ne sera pas viable. Donc je suis au tout début de ma grossesse, je suis assez jeune, et en gros le corps médical me propose de faire une IVG, en me disant vous êtes tombée très vite enceinte, ça reviendra. Et la décision est assez facile à prendre. Ils ont raison, on est en début de grossesse, et donc je décide en effet faire cette IVG pour raison médicale finalement. Et donc c'est une IVG qui se passe à l'hôpital en admission de jour, donc une journée, je m'absente de mon travail pour raison médicale. Mon compagnon m'accompagne, on va à l'hôpital et en fait, j'ai bizarrement pas un mauvais souvenir de cette journée. On a été là, il était là avec moi, on était sûr de notre décision, je me suis sentie soutenue. Enfin, on était là, on était très en paix avec ce qui se passait. Et puis, donc à l'hôpital, ça se passe avec anesthésie générale. Et ça, c'est bizarre. C'est le plus bizarre du truc, c'est qu'on part, je reviens, je me réveille. Le réveil de l'anesthésie générale, moi, c'était ma première dans ma vie. C'est pas du tout comme le sommeil. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de temps entre l'endormissement et le réveil. Et sauf qu'entre les deux, ben, je suis plus enceinte. Ce qui est bizarre aussi dans mon expérience, c'était que... et je ne le savais pas ou on me l'avait pas assez dit, c'est que forcément le corps continue en fait à produire des hormones de grossesse pendant quelques jours. Et donc moi j'ai toujours eu des assez fortes nausées en début de grossesse et là donc je continue pendant 2-3 jours à avoir des nausées, à me sentir très fatiguée, etc. Et donc je pense que c'était plutôt ça qui était dur, mais en tout cas émotionnellement, comme il y avait ce côté médical en plus, c'était pas du tout une IVG lourde à porter. C'est d'ailleurs, enfin, j'y pense pas du tout avec une quelconque tristesse ou quoi. Et puis donc, en effet, quelques mois plus tard, je retombe enceinte. Ma fille naît 9 mois plus tard et tout se passe bien. Et alors là, je retombe en fait enceinte. Il faut croire que je suis plutôt très fertile. Quelques mois après la naissance de ma fille, je découvre que je suis enceinte. Je reconnais les symptômes, je fais un test de grossesse, il est positif, et ma fille a 7 mois à l'époque. Et pour moi, hors de question d'avoir un troisième enfant d'enfilade si rapidement, elle dort pas encore, je l'allaite encore, enfin on est dans un truc pas du tout dans un plan d'un autre enfant, et puis je pense ne pas vouloir d'autres enfants de toute façon. Et donc là j'en discute avec mon compagnon tout de suite, et... pour moi, la décision est assez facile à prendre. Je regarde un peu parce que là, j'ai envie d'un autre accompagnement que l'accompagnement du corps médical que j'ai eu la première fois. Et puis que ce corps médical m'a aussi accompagnée dans la grossesse de ma fille qui est là. Et donc, pour moi, j'associe quand même à la naissance. Et ça me semble pas le bon endroit ni la bonne équipe pour m'accompagner dans cette décision-là qui me semble différente de la naissance, tout simplement. Et donc, je choisis de me tourner vers le planning familial où je suis très bien reçue. Donc, je suis reçue pour un premier entretien médical et puis psychologique qui est très intéressant. Et je reprends un second rendez-vous. Après, là, ça devient un peu laborieux parce qu'au second rendez-vous, donc qui est 9 jours plus tard... je pense, moi, aller en fait à un rendez-vous préparatoire à l'avortement, du coup. Et c'est pas le cas parce qu'on découvre que je suis pas assez enceinte. Et ça, c'était en fait une période assez compliquée. C'était juste autour des fêtes, en plus. Donc j'ai été à Noël, Nouvel An dans la famille, étant enceinte, sans le dire, parce que je savais que je n'allais pas le rester, mais donc avec les symptômes. Et dans cette attente de ne pas savoir quand exactement je pourrais avorter, je suis institutrice, donc il fallait que j'aie avorté avant la rentrée, pour pas que ça vienne parasiter ma rentrée scolaire, parce que c'était important pour moi de faire une rentrée scolaire propre, etc. Et donc, finalement, j'ai pu avorter le vendredi avant la rentrée, il me semble. Et là, du coup, pour des raisons complètement organisationnelles, du fait que ça n'a pas pu se passer au moment où on avait pensé d'abord, j'étais seule à cet avortement. J'avais pas envie d'en parler à des copines. Donc, il y a que mon compagnon qui était au courant. Et j'avais pas forcément envie d'en parler à d'autres personnes. Donc, j'ai été seule à cet avortement. Et j'ai donc été entourée là-bas d'une gynécologue et d'une infirmière du plan familial. Là, c'est pas un avortement sous anesthésie générale. On fait une petite anesthésie locale. Mais donc, on est là, émotionnellement, on vit le truc. Et j'ai trouvé ça... Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai trouvé ça dur, mais je suis contente de l'avoir vécu. Parce que là, il y avait un autre rapport, donc c'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait extérieurement nommer un avortement de confort, c'est-à-dire que si vraiment, enfin, dans une espèce de plan délirant, on aurait pu imaginer qu'on ait cet enfant et on aurait probablement su assumer, peut-être pas avec beaucoup de facilité, mais on aurait su assumer cet enfant. On est déjà parents, on a déjà toutes les affaires, on sait comment ça fonctionne, etc. Donc c'est ce qui pourrait être un peu froidement appelé un avortement de confort, même s'il n'y a rien de confortable dans l'expérience. Et donc, mais je sais pas très bien d'où ça vient, donc j'étais contente de le vivre un peu à la dure. Je sais que là, au planning familial, j'en avais discuté avec la psy qui disait que elle, d'expérience, elles ont vu passer beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience là, que d'expérience c'était pas plus mal que la femme l'ait vécu, que c'est quand même un moment de séparation. Enfin, pour moi personnellement, c'est vraiment la séparation de justement ces symptômes de grossesse, de cette espèce de secret de grossesse à porter. Et s'il y a eu une tristesse, et il y en a eu une au moment de cet avortement dans ce planning familial, c'était vraiment de me dire mais enfin, il y a ce truc qui est dur, c'est très douloureux, c'était très douloureux, qui est vécu par tant de femmes. En silence, je me le suis imposé à moi-même aussi, ce silence envers les autres, mais j'ai été triste pour toutes ces femmes qui y vont seules. Et pourtant, j'en ai voulu à personne de ne pas m'avoir accompagnée, donc je suis un peu dans un truc double comme ça, mais voilà. Et puis sinon, en tout cas, les gens là-bas m'ont super bien accompagnée, comme on peut bien accompagner. Dans ce planning, on voit qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des superbes locaux, mais alors ça peut sembler un détail, mais ça a changé tout. Au plafond, donc de la salle où se passe l'IVG, elles ont collé des images qui font voyager, rêver. Moi, personnellement, j'ai regardé une espèce d'image de coquelicot pendant l'intervention. Et puis, j'ai pu rester là-bas, j'ai dormi là 2 heures, et puis je me suis levée, je suis rentrée chez moi, et j'ai continué ma vie. Et voilà. Et donc, pas vraiment de fin à mon histoire, c'est mon histoire. Moi, j'ai pas vécu mes avortements comme un traumatisme. Si je trouve qu'il y a quelque chose de traumatisant, c'est l'espèce de tabou qui continue à y avoir autour de ça, et je suis consciente que j'y participe en racontant pas mon histoire, mais c'est dur aussi, je pense, de porter une histoire comme ça dans une société qui crée ce tabou, d'où ma volonté peut-être d'en parler là maintenant de manière anonyme mais publique. Voilà.
Michel a avorté il y a 22 ans. Après avoir réussi son bac en cours du soir, elle a commencé les études de médecine à l'âge de 28 ans. Suivant un parcours scolaire pas du tout linéaire, elle en était fière, elle était motivée et déterminée, malgré le manque de soutien de son partenaire à l'époque. Après un rapport sans protection et avec un test de grossesse positif entre ses mains, Michelle se sentait misérable. Elle ne voulait pas l'enfant. Michelle se souvient de comment elle se roulait sur son lit, désespérée, seulement des coups de poing dans son ventre. À la clinique, on insistait qu'elle fasse une échographie et qu'elle regarde le cœur battant du fœtus, et on voulait même lui donner une image. Avant d'obtenir un rendez-vous pour une IVG, une assistante sociale expliquait longtemps les différentes options, mais Michelle savait parfaitement ce qu'elle voulait faire. Quand elle savait que l'intervention aurait dû être réglée en espèces, elle comprenait que ce n'était pas à 100% propre, mais Michelle n'avait qu'un seul but, d'en finir avec ce cauchemar. Heureusement, l'IVG s'est passé sans complications. De retour dans sa résidence universitaire, toujours sentant les conséquences des tranquillisants, elle s'attendait à quelque chose, un sentiment de tristesse, une punition de Dieu. Mais en fait, elle se sentait juste soulagée. La seule chose qui était triste, c'était le fait que Michelle se sentait tellement seule qu'elle ne pouvait parler de sa situation à personne pour peur d'être jugée, voire de perdre certains amis. Quand Michelle avait regagné ses forces, elle rentrait dans sa ville d'origine pour rompre avec son copain. Michelle ne lui a jamais raconté de sa grossesse. Maintenant, 22 ans plus tard, Michelle est dans une relation et maman des deux enfants. Son compagnon a un fils de son premier mariage, qui a 22 ans, et parfois Michelle se souvient qu'elle aussi aurait un enfant de cet âge-là si elle avait décidé différemment. Mais cela ne la rend pas triste. Elle est en phase avec le chemin qu'elle a choisi. Ses enfants sont petits et ne savent pas encore ce que c'est une IVG, et Michelle ne sait pas encore si elle racontera son histoire à eux plus tard.
On vous laisse sur une chanson de Nina Hagen, chanteuse allemande, qui s'appelle Unbeschreiblich Weiblich et qui parle de ce que c'est être une femme et du non-désir d'avoir des enfants.
Überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, geht's mir zum Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Muss ich mich erstmal selbst befreien und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich. Thank you.
für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir hat auch Gott bewahrt. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission radio d'Elles en parlent encore, une émission de Vie Féminine Bruxelles. Vous êtes sur Radio Panique 105.4 et aujourd'hui dans cette émission, on va vous parler d'avortement. Et on vous présente maintenant la chronique de Lisa depuis l'Italie qui va vous parler des différents mythes qui existent sur l'avortement, aussi appelé l'interruption volontaire de grossesse.
Dans cette émission, on a déjà entendu ce que c'est l'avortement. Et maintenant, on va se concentrer sur ce que l'avortement n'est pas. Et sur des conséquences supposées qu'une IVG manifestement ne génère pas. Parce qu'il existe toujours de nombreux mythes qui concernent l'impact de l'avortement sur la santé et le bien-être des personnes concernées, leur comportement sexuel et sur la société plus largement. Certains gens continuent à souligner, par exemple, les dangers d'une intervention comme l'IVG. Mais en fait, le taux de complications dans le cas d'un avortement est autour de 1%. Ce qui rend une IVG dans des conditions salubres moins risqué qu'un accouchement. Comme dans n'importe quelle intervention médicale, il peut y avoir des complications, évidemment, mais l'avortement en soi n'est pas un acte qui met à risque la santé ou le bien-être des personnes, a priori. Ce mythe surmonte une survivance d'un temps quand les facultés médicales étaient beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui et quand l'avortement était un acte clandestin et donc souvent pratiqué dans de mauvaises conditions. En plus, aucune des nombreuses études à long terme qui ont été faites dans des pays différents n'a trouvé aucun lien entre l'avortement et une maladie, l'infertilité, les fausses couches, etc. Quand Simone Veil, ancienne ministre française de la Santé, a fondé son projet de loi encadrant la dépénalisation de l'avortement devant l'Assemblée nationale en 1974, elle disait qu'aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. On est bien d'accord, une IVG est une solution à un problème et n'est pas quelque chose qu'on fait pour plaisanter. Mais le choix de recourir à l'avortement n'est pas forcément un événement traumatique qui déterminera le reste de la vie des personnes concernées. N'importe quelle décision importante au cours d'une vie amène son lot d'émotions, bien sûr. Et bien sûr, il est possible qu'une personne se sente triste, coupable, ou est des problèmes de santé mentale suivant une IVG, mais encore une fois, il n'existe aucune preuve pour une relation causale entre l'avortement et ce problème-là. D'ailleurs, des professionnels de santé compétents constatent que le sentiment le plus répandu parmi les personnes après une IVG est le soulagement. Un autre groupe de mythes concerne l'influence supposée de l'avortement sur le comportement sexuel des gens. Là, il faut dire que l'accès à l'IVG n'en fait pas une méthode contraceptive comme les autres. Les statistiques montrent en fait que l'avortement reste le dernier recours, comme c'était prévu par la légalisation de dépénalisation en Europe au XXe siècle. Qui affirme que l'avortement soit utilisé comme un contraceptif ne semble pas savoir grand-chose sur la procédure à suivre avant qu'on puisse obtenir un rendez-vous pour une IVG dans la plupart des pays où elle est légale. En fait, compter sur une IVG après chaque rapport sexuel ne serait d'ailleurs pas du tout pratique pour les gens concernés. En plus, des études démontrent une tendance de stabilité ou de recul des avortements dans de différents pays en Europe de l'Ouest, comme la France, la Belgique ou l'Italie par exemple. Et cette tendance soit directement liée à l'accessibilité accrue et au moindre prix des contraceptifs. Aussi, bien qu'aux Pays-Bas l'avortement soit facilement accessible, il est peu pratiqué grâce à un appui marqué du gouvernement aux pratiques de planification de naissance, par exemple le contraceptif gratuit dans le cadre du régime public de santé. Finalement, il y a des voix qui disent que l'avortement diminue la valeur de la vie humaine et que sa légalisation ouvre les portes à des pratiques comme l'euthanasie. Déjà, la pratique de l'euthanasie est un terme complexe et ne peut pas être réduit à une expression de manque de respect pour la vie humaine. Et à part cela, les faits montrent simplement que la légalisation de l'IVG n'amène pas forcément à celle de l'euthanasie ou à des autres pratiques qui entendent qui entame, pardon, la valeur de la vie humaine.
Merci Lisa pour cette chronique très enrichissante. Et maintenant, nous allons écouter la suite des témoignages.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Atou et j'ai 27 ans. J'ai eu recours à 2 avortements dans ma vie. Je vais d'abord vous raconter mon histoire pour bien comprendre mes actions et réactions vis-à-vis ceux-ci. Tout d'abord, avant mes 2 avortements, je suis tombée enceinte une première fois. Ça a été le plus beau jour de ma vie. J'ai mis au monde un petit garçon que j'aime du plus profond de mon cœur. J'ai dû faire face à beaucoup de violences psychologiques et physiques de mon ex-compagnon qui était un pervers narcissique. Tout ça s'est passé juste après mon accouchement. Quand je suis tombée enceinte pour la 2e fois, je l'ai senti tout de suite. Le test l'a confirmé, bien sûr, mais c'était... Pour moi, c'était pas possible, je pouvais pas le garder. Financièrement, c'était déjà pas top, et puis avec mon ex, c'était l'enfer. Je savais que ça n'allait pas durer, ou du moins, je l'espérais. Je me voyais mal, je me voyais vraiment mal avec 2 enfants toute seule. Il se trouve que, au final, j'avais des jumeaux dans mon ventre. C'était encore plus dur de prendre la décision d'avorter, mais je savais que c'était le mieux pour eux comme pour moi. Je faisais tout pour ne pas m'attacher. Exemple, par rapport à ma première grossesse, je touchais plus mon ventre, je le caressais plus. J'essayais vraiment d'agir comme s'il n'était pas là. Sinon, je souffrais beaucoup trop. Donc, j'ai eu recours à mon premier curetage. Je n'ai rien senti, car je me suis fait opérer. J'ai subi une anesthésie générale, donc à mon réveil, c'était comme s'il n'avait jamais été là. C'est assez dur à dire, mais j'essayais vraiment de me forger une carapace pour pas souffrir. Je me répétais souvent que c'était mieux, qu'ils n'auraient pas eu la vie que je voulais leur donner. Ensuite, quelques mois plus tard, j'ai enfin pu me séparer de mon ex. Pourquoi avoir attendu ? Eh bien, j'ai attendu que lui me mette à la porte, mon fils et moi. Je savais que partir de moi-même était impossible. Donc, cela fait, je rentre chez ma mère et là, je me rends compte que je suis de nouveau enceinte. Cette fois, c'est encore différent de mon premier avortement parce que cette fois, je suis séparée de mon ex. Et à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était m'en débarrasser, entre guillemets. Je ne pouvais pas garder cet enfant né d'un union de violence. J'ai dû aussi me faire opérer, donc c'était plus facile à supporter parce que malgré que je ne voulais pas à cause de mon ex, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal. Ils auraient pu tous avoir une vie magnifique si ma situation n'était pas comme celle qu'elle était à ce moment-là. Il faut savoir aussi que si je suis tombée enceinte autant de fois en si peu de temps, c'est tout simplement parce que mon ex prenait l'argent de ma contraception pour ses dépenses personnelles. Donc ça me rassurait sur le fait que ça n'aurait pas dû arriver s'il n'avait pas été si égoïste. Après, j'ai bien vécu ces avortements. C'était plus une libération pour moi. Je ne pouvais pas me permettre de les garder. Parfois, je m'imagine toute seule avec 4 enfants et ça m'est complètement impossible. Si j'avais seulement eu le compagnon avec qui je savais que ça allait durer, avec qui je me sentais bien et en confiance, je les aurais sûrement gardés. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait ces choix et je ne regrette pas du tout.
Alors voilà, je m'appelle Florence, j'ai 27 ans et il y a 7 ans, j'ai avorté. J'étais enceinte de presque 3 mois quand je l'ai appris. Et en fait, le premier mois, j'avais mes règles, donc c'est pour ça que ça ne m'a pas alarmée. Et j'ai découvert, parce que j'avais quand même quelques symptômes, j'ai fait un test de grossesse et voilà, surprise. J'étais plus avec le copain avec qui, du coup, j'étais tombée enceinte. J'étais chez mon médecin pour faire une prise de sang, pour confirmer. J'ai été accompagnée de mes parents, de ma sœur, au planning familial. Car j'avais 20 ans, j'avais des projets, j'avais des hobbies et donc... Voilà, j'étais pas encore prête à être maman, je voulais profiter de ma jeunesse. Donc même si je savais que c'était le meilleur choix à ce moment-là pour mes choix de vie futurs, je l'ai quand même mal vécu dans le sens où j'étais très très triste pendant plusieurs mois, même voire plusieurs années, pas d'affilée, mais c'était par période. Parce qu'au final, on commence à se poser des questions de... À quoi ressemblerait mon enfant, ce serait une fille, un garçon, quand on voit un enfant qui aurait plus ou moins l'âge de celui que j'aurais dû avoir, on se pose beaucoup de questions en fait. Et c'est avec le temps, tout simplement, que les choses se tassent, on va dire. Et voilà, j'ai consulté quand même une sophrologue qui m'a beaucoup aidée pour avancer, pour arrêter d'être focalisée là-dessus. Voilà, il y avait des moments avec des hauts, des moments avec des bas. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur ma famille, qui m'ont jamais poussée à l'avortement, qui m'ont dit « tu choisis et on sera là pour te soutenir ». Donc je me rends bien compte que j'ai beaucoup de chance que d'autres femmes n'ont pas spécialement eu. Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire. Et la seule chose, c'est voilà, maintenant j'ai 27 ans, mais j'ai hâte d'avoir un enfant. Je sais pas si c'est la même attente que quelqu'un qui aurait aussi avorté ou qui aurait fait une fausse couche. Enfin, je sais que le jour où je suis enceinte et le jour où je tiendrai mon bébé pour la première fois dans les mains, dans les bras, ce sera un moment fort et peut-être plus fort que quelqu'un qui rien n'est arrivé et qui a tout simplement eu un enfant. On va dire dans les règles de l'art. Donc voilà. Maintenant, je suis une femme hyper heureuse. Et voilà. C'est mon histoire. Voilà. Bonne soirée.
Danielle a 32 ans. Elle a deux enfants. Elle est séparée de son mari depuis 3 ans. Et en ce moment, dans une relation secrète avec un homme marié. Elle a avorté il y a quelques semaines. Quand Danielle s'est rendue compte qu'elle était enceinte après un rapport non protégé, elle ne savait pas quoi faire. Son amant, par contre, disait sans hésiter qu'il fallait s'en débarrasser, le plus tôt possible. Danielle comprenait sa réaction. Mais elle avait toujours dit qu'elle n'aurait jamais avorté dans sa vie. Donc elle savait que, si elle avait décidé de continuer cette grossesse, elle aurait dû se débrouiller seule. Pendant quelques semaines, Danielle évitait de prendre une décision, se disant qu'elle avait encore du temps, même si les premiers signes de grossesse commençaient à se manifester. Elle prenait rendez-vous dans une clinique, mais en attendant le médecin dans le couloir, elle avait envie de partir. Elle ne se sentait pas à la bonne place. Mais là, c'était son tour. Pendant le contrôle médical, Danielle voulait voir l'image de l'échographie, mais le médecin disait qu'il n'avait pas le droit de lui montrer l'image, parce qu'il ne pouvait pas savoir si, entre guillemets, elle aurait sauté d'un pont après. Danielle avait rendez-vous pour une IVG 3 semaines après. Elle marquait cette date dans son calendrier, toujours pas sûre si elle aurait fait l'IVG ou pas. Danielle cherchait des conversations, des échanges avec des personnes autour d'elle. Elle réfléchissait pendant des jours et des nuits. Finalement, elle décidait qu'elle ne voulait pas faire grandir un enfant sans le soutien et la présence du père. Mais pour se préparer pour cette IVG, Danielle sentait qu'elle devait accepter sa grossesse d'abord. Elle commençait donc à parler au fœtus. Et elle se permettait les sentiments d'amour et de joie qui étaient en train de monter en elle à cause de cette grossesse. Et puis, elle a salué son troisième enfant, comme elle dit. Juste avant l'IVG, Danielle remerciait le médecin. Et après, elle ne sentait pas de dépression, de tristesse, de vide, mais toujours de l'amour pour ce troisième enfant, et une grande tranquillité. Danielle se voit aujourd'hui comme une femme qui se connaît, qui s'écoute, et qui s'exprime, et qui est parfaitement capable de faire des bons choix pour elle-même. Elle dit d'avoir beaucoup appris de cette expérience.
Il y a presque 2 ans, le 21 décembre, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une grande tristesse. Déjà, 2 fois, j'avais eu le bonheur de découvrir une grossesse voulue, et là, en fait, 5 mois après la naissance de ma deuxième fille, j'ai découvert qu'on pouvait être triste. Et en fait, vu la date, le 21 décembre, je me suis dit qu'il fallait que j'agisse super vite parce qu'il y allait avoir les fêtes de fin d'année et que ça pouvait être compliqué d'avoir une IVG médicamenteuse. Mais en fait, j'ai découvert tout ça, les délais, les règles pour procéder à l'IVG, les 2 rendez-vous, les médicaments, l'aspiration et tout. En fait, j'ai découvert ça à ce moment-là, à vitesse grand V, j'ai tout lu sur Internet. Parce que je connaissais rien, en fait. Je savais juste que ça existait, mais je savais pas comment c'était et comment fallait faire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai trouvé un rendez-vous le lendemain matin, direct, chez une sage-femme super, qui a eu une annulation, et du coup, gros coup de bol. Elle m'accueille avec le sourire. À aucun moment, j'ai droit à la carte de « Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr de votre choix ? Vous avez bien réfléchi ?» Du coup, c'était hyper bien. Il n'y avait même pas ce truc de votre décision. Il y avait juste « Bon, bah voilà, vous avez pris votre décision. Concrètement, comment on fait ?» Et j'ai trouvé ça génial. Parce que moi, j'étais arrivée un peu comme une petite fille qui va chez le directeur à l'école et parce qu'elle a fait une bêtise. Et du coup, c'était vraiment bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a indiqué la marche à suivre. Elle m'a conseillé de faire rapidement une écho. Elle a cherché avec moi un rendez-vous. On a trouvé un rendez-vous pour le 24 décembre. Mais bon, on a pris ce qu'il y avait comme place. Donc elle m'a dit, vous savez, tout le monde ne sera peut-être pas super cool sur ce chemin vers l'IVG parce que ben, voilà, tout le monde n'est pas super sympa quand on veut faire ça. J'arrive pour faire l'écho. On me demande d'abord pas mal d'argent, évidemment. Et puis l'échographiste m'a dit, en fait, il n'y a rien dans l'utérus. Et donc là, du coup, moi, je ne sais pas trop ce qui peut se passer. Je ne comprends pas forcément le truc. Mais j'avais pris on avait calé aussi avec la sage-femme un rendez-vous juste après chez le médecin. Et en fait, c'était d'arriver avec mon écho qui pouvait dater, tout ça. Et comme ça, je pouvais avoir les comprimés pour l'avortement. Et en fait, chez le médecin, elle me dit... Il y a deux options, en fait, vu qu'il n'y a rien. Soit vous avez déjà fait une fausse couche toute seule et vous n'en êtes pas forcément rendu compte. Soit il y a une grossesse extra-utérine. Donc, j'ai dû faire des prises de sang tous les deux jours pendant deux semaines. Comme il y avait aussi et des saignements et des douleurs, tout ça, j'ai eu 5 échographies par voie basse pendant les deux semaines. J'ai eu plusieurs passages aux urgences, aussi bien à Paris que dans le sud où j'étais en vacances pour les fêtes de fin d'année, au milieu les fêtes de fin d'année, et au final, voilà, j'ai fini par être opérée le 7 janvier, après avoir eu une injection de méthotrexate qui a aidé mais qui n'a pas tout fait, et puis du coup j'étais en semi-urgence et donc opérée le 7 janvier. Au final, j'ai pas fait d'avortement, mais j'ai quand même fait toute la démarche vert. Et du coup, j'étais bizarrement, après cette opération, en fait, j'étais un peu soulagée parce qu'en fait, j'ai pas eu à gérer l'après-avortement d'une grossesse viable. Je gérais l'avant, la décision, et qui était quand même pas super simple, alors que j'ai toujours été profondément pour l'avortement. Et là, en fait, j'avais juste le fait que c'était de toute façon pas viable, donc il fallait de toute façon enlever les cellules qu'il y avait, parce que ça pouvait même être dangereux pour moi. Mais j'avais toujours l'espèce de culpabilité, en fait, d'avoir fait cette démarche, d'aller vers un avortement, alors que je suis à 100% convaincue, j'ai aucun doute, je suis complètement convaincue du truc et entièrement pour. Et bizarrement, je suis aussi soulagée de pas porter ça. Je comprends l'idée que c'est jamais simple d'y avoir recours, en fait, et je pense que c'est jamais une balade de santé, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai toujours été profondément pour l'avortement, mais j'étais aussi complètement convaincue que j'y aurais jamais recours. Que moi je savais gérer, que moi j'avais déjà eu deux enfants, et que moi je connaissais, en fait. J'ai fait des études, je sais, en gros, j'étais persuadée que c'était ça, donc j'étais persuadée que c'était pour les autres et que j'aurais jamais à gérer cette décision. Et en fait, il a suffi d'une fois, une seule fois sans protection. Et voilà, une seule fois. Et derrière, ça a été costaud. Quand j'ai découvert cette grossesse, j'étais hyper triste et j'ai tellement, tellement été soulagée quand j'ai su que j'avais le choix, que j'avais mon bébé de 5 mois et que j'avais sa grande sœur et que je pouvais décider de pas gérer en plus cette grossesse dont je voulais pas. Et que c'était un choix qui est hyper simple. Et en fait, on oublie à quel point il est hyper important.
Encore merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Ce fut un honneur de les écouter et aussi de les diffuser. Et maintenant, je vais enchaîner avec une musique qui s'appelle Viva la Vulva.
We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare,
so rare,
so fine.
So fine.
I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman. Say I love you, afraid to take and too eager to give.
Ooh.
You help me deal with what I'm feeling, with why.
So as we can see, vulva, vulva, vulva.
We come a long, long way together, babe. Through the hard times and all the good. Take this day to celebrate you, baby. Cause I have to stop and praise you like I should.
What the?
We've come a long,
you're so
rare. Long way together.
And you're so fine.
Nous revoilà sur le 105.4 Radio Panique avec l'émission d'Elles en parlent encore, une émission de Vie féminine Bruxelles. Alors je ne pouvais pas passer à côté d'un petit point actu mondial de l'avortement avec tout le bruit que les manifestations en Pologne ont fait récemment. Donc on va parler ici de comment ça se passe dans plusieurs pays et je ne me veux pas exhaustive, je vais parler de ce que j'ai lu ou vu dans les news récemment. Alors, en Europe tout d'abord, pour la Pologne, c'est une décision du tribunal constitutionnel qui a dit que l'avortement sur la base de déficience fœtale grave et irréversible ou de maladie incurable menaçant la vie du fœtus est désormais considéré comme incompatible avec l'article 2 de la Constitution, un article qui stipule que tout le monde a droit à la protection de sa vie. Donc avec cette décision, les Polonaises ne pourraient donc plus avorter, elles ne pourraient avorter que lorsqu'il y a un grave danger pour la mère ou dans le cas d'un viol. Ce seraient les deux scénarios possibles pour un avortement. Mais des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pendant plusieurs semaines. Et cela a marché, mais avec ses limitations. La décision a été suspendue, on ne sait pas ce que ça veut dire pour plus tard. Mais il ne s'agit pas d'une victoire totale, car pour tenter de calmer les foules, une nouvelle proposition de loi du président Duda a été déposée au Parlement afin de redéfinir les cas de malformation du fœtus. Donc, l'avortement serait à nouveau légal en cas d'une malformation létale, c'est-à-dire quand le fœtus est déjà mort ou va mourir juste après l'accouchement. Donc, c'est quand même des cas très limités. Une solution qui ne plaît pas ni aux conservateurs, ni aux activistes dans les rues. Le parti conservateur qui est au pouvoir ne va pas laisser trop de terrain aux manifestants, aux militants. Et la loi polonaise sur l'avortement est une des plus restrictives d'Europe. Et de nombreuses femmes pratiquent des avortements illégaux dans d'autres pays. De nombreuses femmes polonaises changent de pays pour se faire avorter en conséquence de cette loi, quoi. Donc, on va suivre de près les développements de cette situation. Alors, je voulais mentionner Malte. Malte, où le catholicisme est vraiment la religion de l'État, reste un des seuls pays de l'Union européenne prohibant totalement l'interruption volontaire de grossesse. La peine encourue va de 18 mois à 3 ans de prison. Donc voilà, on parle souvent de nous en Europe, ben il faut regarder en Europe, c'est pas fait non plus. Hein. Maintenant, je vais vous parler un peu en Asie de deux pays, la Thaïlande en premier. Le 17 novembre, donc tout récemment, la Cour constitutionnelle thaïlandaise a ouvert la voie à la légalisation de l'avortement pour les grossesses en dessous de 12 semaines. Et donc, c'est devenu décriminalisé, en fait. Mais bien que cette nouvelle a été partagée partout dans le monde avec grande joie, j'ai lu certains articles qui disaient qu'il ne fallait pas trop voir ça avec une vision occidentale, car dans les faits, cela ne va pas changer grand-chose, car même si l'avortement se pratique et est abordable financièrement, les mœurs là-bas font que beaucoup de familles mettent la pression pour que la personne n'ait pas de recours à un avortement, et les hôpitaux qui les pratiquent sont situés dans les grandes villes et ne sont pas accessibles pour les personnes vivant en zone rurale. Donc oui, c'est un premier pas, mais il ne faut pas croire que ça résout tout, mais c'est un premier pas et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres dans cette direction. Un autre pays d'Asie, la Corée du Sud, c'est un peu similairement, donc c'est à chaque fois la Cour constitutionnelle qui a rendu un verdict qui disait que la criminalisation de l'avortement, qui était en vigueur depuis des dizaines d'années, était illégale. Donc l'avortement jusqu'à 14 semaines est décriminalisé. J'insiste sur 14 parce que c'est déjà une avancée, la plupart des pays font 12 semaines, hein. Même la Belgique, si je me rappelle bien. Donc, 14 semaines, c'est très bien. Mais comme un peu de manière similaire, ils disent, malgré des apparences de modernité, vu que la Corée du Sud, on connaît la technologie, ça y va, ils sont à la pointe, mais la Corée du Sud reste une société très machiste où le symbole de la famille est très fort et les femmes doivent être dévouées à leur famille. Donc, on se demande aussi, dans les faits, qu'est-ce que ça va changer. Mais récemment, depuis 2018, la vague du mouvement MeToo est arrivée là-bas et les Sud-Coréennes se sont rassemblées de manière plus significative pour les droits des femmes. Et donc, on continue le combat, on espère que ça continue dans la bonne direction. Alors, un peu moins d'actualité, mais il faut en parler pour pouvoir aussi mettre en emphase l'importance de notre militantisme. C'est l'exemple du Salvador, un état les plus punitifs en termes d'avortement. Donc, dans les années 90, le Salvador a adopté une législation draconienne qui interdit l'interruption de grossesse en toutes circonstances, même en cas de risque à la vie de la femme. L'avortement est théoriquement passible de 2 à 8 ans de prison, mais dans les faits, les juges considèrent toute perte du bébé, je dis bien toute perte du bébé, donc ça inclut les fausses couches, comme un homicide aggravé qui est puni de 30 à 50 ans de réclusion. Et donc, il y a des femmes qui sont en prison pour des trentaines et cinquantaines d'années, pour des avortements et aussi pour des fausses couches. Dans le continent africain, dans 10 des 54 pays, l'avortement n'est autorisé pour aucune raison. Et dans les autres, il est parfois dur de trouver une façon d'avorter sécurisée. Mais par contre, l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Cabo Verde, l'avortement est autorisé sans limitation de motivation. Donc voilà, sur tous les continents, il y a encore du travail à faire et on espère qu'on va tous lutter pour avoir plus de droits à l'avortement. Je vais maintenant laisser la place à Lisa, qui va nous faire une petite chronique, qui va nous parler d'un concept qui est un peu inquiétant, qui s'appelle l'objection de conscience.
Les lois qui ont autorisé l'IVG dans les différents pays en Europe au XXe siècle représentent toujours une victoire cruciale pour le mouvement pour les droits des femmes. Pourtant, la problématique de l'objection de conscience montre que malgré l'existence d'une telle loi, il peut toujours y avoir des obstacles pour une personne qui nécessite avoir accès à une IVG. Et cette problématique te montre aussi que l'avortement est loin d'être perçu comme un acte médical comme les autres. Historiquement, le concept de l'objection de conscience a émergé dans le domaine militaire et désigne la désobéissance des particuliers à cause d'une conviction personnelle, religieuse ou éthique. Pendant longtemps, la réponse à ces actes de désobéissance était des punitions sévères. Mais avec le temps, des choix alternatifs, comme par exemple le service civil, ont largement remplacé les sanctions. Ainsi, l'objection de conscience est devenue un choix respecté, voire protégé par la loi. Avec la légalisation de l'IVG en Europe, certains pays comme la Belgique ont décidé de permettre au personnel médical de ne pas pratiquer des avortements s'ils estiment que ça est contre leurs convictions personnelles. Une raison importante derrière cette décision était les considérations pragmatiques. La légalisation de l'IVG était extrêmement controversée, mais cette clause de non-contrainte pour le personnel la rendait un peu plus facile à réaliser. L'objection de conscience par rapport à l'IVG est réglée au niveau national. Il n'y a donc pas de droit international à l'objection de conscience pour le médecin qui ne souhaite pas pratiquer les IVG. C'est montré par un jugement récent de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour jugeait que deux sages-femmes suédoises et anti-IVG pouvaient être restreintes dans leur liberté de conscience parce que cette dernière ne pouvait pas menacer la fourniture de services médicaux. Si on fait un tour d'horizon en Europe, on peut constater que le Royaume-Uni se montre plutôt bien élève d'un point de vue pro-choix. Le personnel médical recruté par le Service national de santé et doit s'engager à se livrer à n'importe quel service médical. En Belgique, en France et en Italie, cependant, le personnel médical a le droit à l'objection de conscience. En Belgique et en France, il existe soit une clause générale qui autorise tout personnel médical de ne pas agir contre leurs convictions personnelles, et en plus une clause spécifique selon laquelle le personnel ne peut pas être obligé à pratiquer une IVG. Ceci dit, si un médecin n'est pas prêt pour rendre ce service, il ou elle doit immédiatement orienter ses patientes vers un ou une autre collègue qui pratique l'IVG. En France, le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes recommande depuis 2013 déjà la suppression de cette clause spécifique car elle la juge inutile et stigmatisante, vu qu'elle insinue que l'IVG soit pas une pratique comme les autres. D'ailleurs, en France, les cliniques privées peuvent profiter de cette clause collectivement et en Belgique, il y a voir des hôpitaux publics, à savoir ceux de Malines, Namur et Dinan, qui ne pratiquent pas les IVG. Parlons ensuite un peu de l'Italie. Selon un rapport du Conseil de l'Europe, le nombre de professionnels qui ne se disent pas prêts à réaliser une IVG est en train d'augmenter et pèse pour 70% dans le pays entier, mais pour jusqu'à 90% dans certaines régions. En plus, uniquement 60% des hôpitaux avec un service de gynécologie offrent aussi des IVG. Cela constitue un problème pour le personnel qui pratique les avortements aussi, parce qu'ils sont très souvent débordés. Ces statistiques choquantes s'expliquent en partie par la culture conservatrice et catholique de ce pays, qui a été encore une fois démontrée par l'exemple d'une université catholique privée à Rome qui n'hésite pas à dénommer l'IVG un crime et qui exige de ses étudiants, de ne pas la pratiquer après avoir obtenu leur diplôme. Mais il y a aussi des considérations plus pragmatiques qui amènent certains médecins à ce choix. Dans certaines régions italiennes, il vaut mieux rester loin de toute mouvance qui pourrait être considérée controversée si on rêve d'une belle carrière. Et ce problème a attiré l'attention du Parlement européen, qui, déjà en 2017, a reconnu qu'un nombre croissant des objections de conscience concernant l'IVG constitue une nouvelle menace pour la santé et les droits des femmes sur le continent, et qui a demandé aux États membres d'assurer que les hôpitaux comptent au moins un nombre minimal de professionnels de santé habilités à réaliser un avortement. Real hot girl shit. And if the beat live, you know Lil Juke made it. Body, yaddy, 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 body crazy curvy wavy big titties lil waist body crazy curvy wavy big titties lil waist body yaddy 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 yaddy
my shit as you could tell. Any hoe got beef from years ago is beefing by herself. If we took a trip on the real creep tip, bitch, rule number one is don't repeat that
don't
shit.
Repeat that
rule
shit.
Number two, if they all came with you, they better know exactly what the fuck they came to do. Body, yaddy, 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 body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist. Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil' waist. Body, yaddy, 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 yaddy. The category is body. Look at the way it's sitting. That ratio so out of control. That waist, that ass, that titties. If I were me and I would've seen myself, I would have bought me a drink. Took me home, did me long, ate it with the pennies on. I could build a house with all the brick I got. Bitches spend a lifetime trying to get this high. And if her head too big, I could make that pop. I'm not the one to play with, like a touch me. Body, yaddy, 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 body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body, yaddy, 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 yaddy.
Bonjour à tous, vous êtes à la fin de l'émission d'Elles en parlent encore, une émission féministe de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 et vous venez d'écouter Body de Megan Thee Stallion. Alors, un grand merci à toutes les personnes qui ont décidé de témoigner aujourd'hui et aussi à Lisa et Léa et à toute l'équipe d'Elles en parlent encore. On a d'autres témoignages qu'on n'a pas pu insérer dans cette émission mais que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, tout comme les témoignages que vous venez d'entendre. Et on espère se retrouver bientôt dans un mois pour une nouvelle émission sur un nouveau sujet. Alors, quelques événements qui ont lieu. Il y a le Elle Festival, qui est un festival d'événements lesbiens, bi, trans et féministes organisé par la Rainbow House Bruxelles, qui a débuté le jeudi 26 novembre et qui est prolongé jusqu'en mars 2021 avec une série d'événements digitales et qui ont lieu maintenant. Donc, checkez le site web pour toutes les infos. Alors, on vous laisse aussi avec quelques ressources qui pourraient vous être utiles en cas de doute, de questionnement ou si vous avez besoin d'aide. Ce serait d'appeler le centre de planning familial de votre commune, de votre ville. Ils ont aussi des sites web. Et puis, il y a quelques autres sites qui vous renseignent sur l'avortement, les conditions en Belgique, etc. Il y a loveattitude.be, planning.fps.be et aussi bruxellesj.be. Voilà, take care et à très bientôt.